Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Chante des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est parti pour Contre-histoire. Contre-histoire qui remonte toujours le temps, bien entendu. Alors, en profitant de l'éclat des dernières guirlandes, je vais vous raconter une histoire de Noël. Vous avez déjà entendu dire que le Père Noël était une ordure. Eh bien, si vous ne le croyez pas, vous allez le croire dans quelques instants.
Thank you.
Alors, nous revenons à mes histoires de Père Noël. En l'an de grâce 1965, votre bavarde de service a été envoyée à Bourganeuf, au fin fond de la Creuse, comme maîtresse d'internat, dans un petit collège d'enseignement technique, collège de jeunes filles spécialisées dans la couture, la dactylo, et ce qu'on appelle pudiquement les emplois de collectivité. La Creuse, c'est vide, et tout y est loin de tout. Si loin que nos gamines ne rentraient pas toutes dans leur famille au moment des vacances. Du moins, c'est l'explication qu'on nous avait donnée quand on nous a demandé d'assurer notre service pendant les vacances de la Toussaint. On y avait cru facilement, car pour arriver à Bourganeuf, c'était la croix et la bannière, de tortillards faméliques en autocar chaotique, avec entre chacun des heures et des heures d'attente. Ces heures d'attente, je me souviens du vent qui faisait onduler comme la mer les hautes herbes des champs et leurs épis argentés sous le soleil. Aubusson, Guéret, La Souterraine, La Chapelle Taillefer, Saint-Sulpice-Laurière, Feltin, Vieilleville, enfin. Où un quart, sorti d'un autre âge, nous acheminait, en toussant à chaque virage, à Bourganeuf-Creuse. Arrivent les congés de Noël, et se renouvelle la demande et l'obligation de service de vacances. Les deux semaines réglementaires de la trêve dite des confiseurs auraient bien sûr dû permettre à toutes nos pensionnaires d'aller dans leur famille et d'en revenir sans passer pour autant des nuits en voyage éreintant. À nos questions, que nous n'imaginions pas cruelles, les petites répondaient que leurs parents ne pouvaient pas les recevoir. Aucune de notre équipe de pionnes ne poursuivit les investigations auprès des enfants, croyant deviner alors, un peu tard, la détresse et l'abandon de ces gamines privées de Noël. Nous avons appris par la suite que c'était la DAS qui avait placé nos petites dans des familles attentionnées, familles rémunérées, bien sûr, pour la lourde tâche d'éducation de ces orphelines. Michel, l'autre surveillante de service avec moi, pour cette épreuve, est évidemment devenue une amie. Ensemble, nous avons essayé de faire de la nuit de Noël une nuit particulière. Pendant que l'une organisait dans la journée des jeux avec les enfants, l'autre faisait les courses. À l'épicerie de la Grand Place, on dénicha une bûche de Noël, à la margarine ou pire, mais qui portait fièrement, là un petit lutin à bonnet rouge, ici un petit sapin, et même un mini traîneau en plastique tiré par un mini cheval. En plaide complétée, bien sûr, par une bouteille de cidre déguisée en bouteille de champagne, des bougies de couleur et quelques papillotes. Après le dîner, que Jeannot, le jeune cuisinier, avait soigné de son mieux, nous avons lu et fait lire aux petites quelques jolies pages de leur livre de français. Et puis, comme tous les soirs, il fallut, toutes emmitouflées au mieux, regagner à travers le village glacé, le dortoir, qui était à lui seul une angoisse et une punition. L'Arié. Rue de l'Arié. Elle existe toujours, mais elle a bien changé. À l'époque, une bâtisse ruinée y empilait dans ses étages, je crois, trois dortoirs. On y accédait par un escalier de bois étroit, en colimaçon, aux marches incertaines et disjointes. Le plancher des chambres était aussi pitoyable. Pas d'eau chaude au lavabo, une seule douche pour les dizaines de pensionnaires présentes en période scolaire. La petite troupe, habituée, résignée, s'apprêtait comme d'habitude à passer cette nuit de joie planétaire dans ce grenier à courant d'air. en file indienne, dans l'escalier étroit. La plupart d'entre nos protégés ne comprirent pas les exclamations de la première qui découvrit la bûche de Noël allumée dans le dortoir. Assises par terre, nous avons chanté et ri, jusque tard dans la nuit. Nous avons même dansé. La bûche n'avait d'autre goût que celui de l'aventure, de la transgression. Et toutes ont trouvé cela délicieux. Nous avons même craint d'avoir fait trop de bruit, d'avoir peut-être été entendus des voisins, de risquer les ires administratives pour avoir passé le Rubicon de l'éducation nationale. Le lendemain, sagement et à l'heure, nous sommes allés déjeuner au collège comme tous les jours, après avoir fait disparaître bouteilles, papiers et papillotes. Le jour de la rentrée, Madame Jules, la directrice, convoqua solennellement toutes les surveillantes dans son confortable bureau. Et devant nos camarades de travail, Michel et moi reçurent le savon le plus mémorable de notre jeune existence. Car Madame Jules, inspectant les dortoirs après l'alerte donnée le 26 décembre par les voisins, avait découvert sur un plancher des gouttes de cire colorées et durcies, dénonçant irréfutablement notre crime.
This is
traité d'irresponsable et carrément de pyromane. Nous avons subi l'avalanche. Diviser pour régner, croyait la dame. Erreur. Notre équipe, pourtant disparate, se fondit en un bataillon de choc qui se mit en grève contre les conditions d'existence indignes de ses enfants. Le thermomètre avait eu alors la bonne idée de descendre brusquement dans la région, ramenant sous les 10 degrés la température des dortoirs, malgré le chauffage au fioul antédiluvien. Un courrier rageur, signé de nous toutes, fut adressé à l'inspection académique avec la bénédiction de la CGT ravie. Toutes les élèves furent renvoyées dans leur famille, même celles de la DAS. Et 10 jours après, nous emménagions dans l'auberge de la jeunesse du bourg, inutilisée depuis des années, malgré son équipement sanitaire et son chauffage décent. On pouvait toutes s'y laver et dormir sans grelotter. Je me souviens du grand dortoir, capable de recevoir plus d'enfants que nous n'en avions, dans son imposante forêt de lits métalliques superposés. L'année scolaire se poursuivit sans heurts particuliers et même avec un net adoucissement des relations administratives. Les petites nous ont écrit pendant des années. Patricia, Jocelyne, Michel, Madeleine. Quand Patricia m'annonça son mariage et sa maternité, je pensais, moi-même écartelée entre lycée et puériculture, que je n'entendrais plus parler de Bourganeuf, ni de ses pupilles de la Ve République. quelques décennies après, installée près de notre belle ville rose, je découvrais avec bonheur l'espace des diversités, que vous connaissez bien sûr, rue d'Aubuisson, et j'y fis de belles rencontres, en particulier celle du groupe de Réunionnais de Toulouse. Et voilà ce que j'appris en leur compagnie. Et je vais vous lire maintenant quelques extraits d'articles de Mediapart et du Monde, datés de 2014 et 2016. Histoire inachevée des enfants volés de la Réunion. Parce que l'île était pauvre et que la France rurale avait besoin d'être repeuplée, 1600 petits Réunionnais ont, de 1963 à 1982, été déracinés et envoyés en métropole. Le magazine du Monde a rouvert le dossier de l'exil forcé des enfants réunionnais. L'Assemblée nationale a reconnu en 2014 la responsabilité morale de l'État dans cette affaire. Jessie doit avoir 8 ou 9 ans. Elle vit chez sa grand-mère, au cœur saignant, quartier miséreux du port à La Réunion. L'école, elle y va quand ça lui chante. Elle préfère traîner dans la rue avec ses copines. Parfois, quand elle a trop faim, elle s'aventure même sur les décharges. Uranie, la grand-mère, a mis sa propre fille à la porte. Pas de fille-mère à la maison. Mais quand Uranie s'absente, la jeune maman vient voir son enfant en cachette. Jessie le sent, sa mère l'aime, mais craint par-dessus tout Uranie. Un jour où la petite veut suivre sa mère, celle-ci l'en empêche. Jessie a le sentiment qu'elle ne reverra plus sa mère qui s'éloigne. Elle s'écroule dans une crise de nerfs. Elle reviendra à elle sur un lit chez des voisins. Des suites de cette journée, Jessie, la soixantaine aujourd'hui, ne conserve que de vagues souvenirs, ponctués d'énormes trous noirs. Elle ignore comment elle s'est retrouvée à l'orphelinat de Saint-Gilles-les-Hauts, ne se souvient plus du voyage vers la métropole à 9000 km de chez elle, ni de son arrivée à 11 ans à l'aérium de Saint-Clar dans le Gers. Juste un léger flash de son frère qui hurle dans l'avion. D'après ma psychothérapeute, mon cerveau a oublié ces moments pour me protéger de si gros traumatismes, raconte-t-elle, dans un café de La Rochelle, à 1 heure de voiture de sa maison. Avec son frère et sa sœur, elle fait partie des 1600 enfants réunionnais, orphelins ou non, exilés de force en métropole entre 1963 et 1982. Comme eux, certains ont été adoptés. D'autres sont restés en foyer ou ont servi de main-d'œuvre gratuite dans les fermes. Un tiers a atterri dans la Creuse. Les autres ont été répartis dans une soixantaine de départements. Quelques-uns s'en sont bien sortis, mais la plupart sont marqués à vie. Des vidéos poignantes sur YouTube font raconter leur histoire à d'autres enfants de la Creuse. Celle en particulier de Valérie en dansant. En regardant Valérie, c'est Madeleine que je revois, l'enfant métisse très silencieuse, dont l'histoire se trouve là, j'en suis sûre, même si les Réunionnais de Toulouse ne la connaissent pas. D'autres vidéos parlent de viol et d'esclavage caractérisés, surtout en zone rurale. Et l'article d'Hélène Bekmézian du Monde précise « Si l'Assemblée nationale ne peut pas réécrire l'histoire, elle peut contribuer à mieux la faire connaître, notamment sur ses périodes les plus sombres. mercredi 18 février 2014, en adoptant par 125 voix contre 14 la résolution proposée par la députée réunionnaise Erika Barreit visant à reconnaître la responsabilité de l'État dans l'exil forcé d'enfants réunionnais, les députés ont permis à un volet de l'histoire française du XXe siècle d'entrer dans la lumière. Et ces quelques 1600 victimes avec. Les enfants de la Creuse n'étaient pas tous réunionnais. À l'Assemblée des diversités où j'ai reçu ce complément choc des souvenirs de mes 20 ans, j'ai aussi rencontré Germain Grégoire, martiniquais, dont la fratrie de 5 enfants fut éclatée entre divers départements métropolitains, sous les auspices de tantes et d'oncles, de circonstances, brevetées d'as. Et il me souvient d'une comptine, chantée dans la cour de récréation de mon école auvergnate, et Philippe, ne t'étouffe pas de rire, je vais essayer de restituer cette comptine malgré le chat que j'ai dans la gorge. Comptine qui disait dans les années 50 « J'ai quitté à regret sur une chaloupe le pays si joli de ma Guadeloupe. Ah, rendez-moi ma Guadeloupe et ma cabane. » Et le petit coin de bananier où moi je suis née. La magie du net me confirme que je n'ai pas rêvé cette chanson. Et puisque d'autres l'ont apprise à l'école, c'est peut-être qu'elle racontait une histoire concrète qui ressemble peut-être à celle de Germain et de ses frères et sœurs, enlevés pendant que leur mère accouchait à l'hôpital. Les témoignages sur vidéo racontent deux sortes d'histoires de déportation de ces enfants. Ceux recueillis par la DAS pendant une hospitalisation ou une absence de leur mère, pour leur bien, et avec promesse de très prochains retours au foyer familial. Et plus souvent, ces enfants ayant eu la chance d'être distingué par la DAS pour être envoyé en métropole sous prétexte d'y poursuivre des études, avec promesse de retour aux vacances et avantages conséquents aux familles. Ces familles pauvres, confiantes en la propagande de la République et n'ayant aucun moyen de protester. Des participants au colloque à l'espace des diversités et de la laïcité ont raconté aussi que les histoires métropolitaines de Père Fouettard, censées faire tenir tranquilles les enfants turbulents, prenaient la forme à La Réunion et ailleurs d'une voiture enlevant des enfants dans la rue. Une camionnette de chevaux, se souviennent certains. Comme le raconte Germain dans son livre « Ma famille déracinée », paru chez Vox Scriba en 2013, et comme le confirment les vidéos, les enfants ne sont jamais revenus. Placés eux aussi en famille d'accueil rémunérée, ils furent souvent exploités, parfois pire, battus, violés. Ils ont souvent été proposés à l'adoption, étant alors réputés orphelins, tandis que leur famille naturelle se désespérait en démarches multiples et inutiles pour les retrouver. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight. We'll be right back. Une série d'émissions présentées comme un feuilleton télévisé il y a quelques années racontait l'histoire de jeunes femmes malgaches auxquelles était proposé le mariage avec des Français en mal de solitude, paysans pour la plupart. Ces histoires, parfois touchantes, souvent révoltantes, illustraient les performances d'Internet et des sites de rencontres. On peut peut-être les rapprocher de celles des enfants de la Creuse. Histoire des voyages si souvent mortels d'est en ouest, où la bourgeoisie des Lumières, vous savez, celle de Beaumarchais, le grand négrier, où cette bourgeoisie réclame à sa table des douceurs exotiques. Quand l'industrie naissante exige toujours plus d'esclaves, dont les têtes décervelées sous les coups oublient leur langage, leur histoire et même leur nom. Et voyage du sud au nord pour défendre ou revivifier une métropole qui ne se souvient d'eux que pour les envoyer en première ligne des combats de la Marne ou des Aurès. Ce sont toujours les mêmes qu'on vend, qu'on enlève, qu'on esclavagise dans les champs de canne à sucre ou ailleurs, qu'on abandonne à une misère qui bénéficie aux métropolitains. Pas de scolarité ni de structure sociale médicale accessible aux Antilles au temps de l'esclavage, et bien peu même au XXe siècle. Jeunesse arrachée aux familles dévastées pour être esclave d'une lointaine et indifférente métropole. Troupes sacrifiées en priorité jusqu'à Tiaroy et même après. Enfants opportunément volés, puis abandonnés. Tous traités comme du bétail.
Si je croyais en Dieu, je serais heureux de rêver au jour où je verrai dans le ciel un ange en robe blanche, par un clair dimanche, descendant vers moi dans un chariot doré, dans un bruit d'ailes et de soie, loin de toute la terre, très haut je verrai se lever devant moi. la brûlante lumière, le bonheur éternel, si je croyais en Dieu. Mais j'ai vu trop de haine, tant et tant de peine, et je sais, mon frère, qu'il te faudra marcher seul, en essayant toujours de sauver l'amour qui te lie aux hommes de la terre oubliée. Car tout au bout du chemin, une faux à la main, la mort en riant nous attend pas pressés. Aussi mon ange à moi, je le cherche en ce monde pour gagner enfin ma part de joie dans cette